Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour et bonsoir, amis auditeurs, selon l'heure que vous nous suivez. Ravi de vous retrouver en ce mercredi 24 novembre 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal suivi d'un commentaire politique. Levé partiel des sanctions contre l'arrêt de l'enrichissement à 60%. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, Amir Abdollahian s'entretient avec le chef de l'AIOA, Raphaël Grossi, à Téhéran. Le chef de l'AIOA dit qu'Israël devrait adhérer au TNP comme les autres. Et puis une nouvelle agression aérienne d'Israël contre la Syrie fait plusieurs morts. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIOA, a rencontré et s'est entretenu mardi après-midi avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian. Lors de la réunion, Amir Abdollahian a souligné la ferme détermination de la République islamique d'Iran à interagir de manière constructive avec l'agence dans le cadre de l'accord de garantie. Le très haut diplomate iranien a exprimé l'espoir que lors de la visite du chef de l'AIOA à Téhéran, la confiance mutuelle et la coopération bilatérale seront renforcées plus que jamais. Le ministre iranien des Affaires étrangères a également souligné l'importance du travail technique, professionnel et neutre de l'AIOA et la nécessité pour l'agence d'ignorer les pressions politiques étrangères. Le directeur général de l'AIOA a également souligné l'approche technique, professionnelle et impartiale de l'agence, affirmant que sa visite en Iran est un signe de détermination à tenir des pourparlers, à se comprendre, à résoudre les problèmes et à renforcer la coopération avec la République islamique d'Iran. M. Grossi a également déclaré que l'AIOA est prête à résoudre les problèmes restants dans les prochains mois en étroite coopération avec l'Iran. La chaîne anglophone iranienne Press TV a réalisé une interview exclusive avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique lors de sa visite en Iran. Raphaël Grossi a qualifié l'ambiance de positive, affirmant qu'il y a eu d'excellentes réunions avec des responsables iraniens. M. Grossi a également été interrogé sur la position de l'agence sur les actes de sabotage israéliens contre le programme nucléaire iranien et l'assassinat de scientifiques nucléaires iraniens. Il a déclaré que l'AIOA condamne tout acte de violence, bien qu'elle ne mène pas d'enquête ou n'attribue pas de responsabilité. Il a déclaré que les utilisations pacifiques de la technologie nucléaire sont le droit inaliénable de chaque État. Cependant, le chef de l'AIOA a souligné que tous les pays devraient adhérer au traité de non-prolifération conçu pour empêcher la propagation des armes nucléaires. Grossi a déclaré qu'il aimerait voir un monde exempt d'armes nucléaires, mais a ajouté que l'AIOA a un mandat de non-prolifération et non de désarmement. Pour le vice-président iranien chargé des affaires juridiques, protéger les demandeurs d'asile et les réfugiés est une obligation des droits humains. Le vice-président iranien chargé des affaires juridiques a adressé une lettre au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, appelant à la protection des demandeurs d'asile et des réfugiés conformément aux droits de l'homme. L'état actuel du monde et les nombreuses crises telles que le coronavirus, la famine, les catastrophes naturelles et les guerres mettent plus que jamais la vie humaine en danger. Entre-temps, la crise de l'asile et de l'immigration a été un problème constant et souvent sans réponse des pays. Ce qui a blessé les sentiments du monde d'aujourd'hui et fait de tout le monde des demandeurs d'asile, c'est le déplacement et la confusion de milliers de réfugiés dans la région frontalière de la Biélorussie et de la Pologne. Il est regrettable qu'à ce jour, les responsables des droits de l'homme et les militants dans divers domaines n'aient pas été en mesure de trouver une solution. La saison froide et le manque de moyens d'hébergement minimum et le manque de tout soutien matériel et spirituel ont fait de ce problème une catastrophe humaine. Malheureusement, nous constatons la négligence et les déclarations parfois inconsidérées des fonctionnaires de l'Union européenne à cet égard. Peut-on lire dans la lettre du vice-président des affaires juridiques de l'Iran à l'adresse du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Production de médicaments et des équipements médicaux, le ministère des Affaires étrangères de l'Iran prêt à aider les fabricants iraniens. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé de la diplomatie économique, Mahdi Safari, a souligné mercredi que le corps diplomatique et les missions de la République islamique d'Iran à l'étranger étaient prêts à aider à résoudre les problèmes et à développer les exportations de produits pharmaceutiques et d'équipements médicaux. Lors d'une réunion en présence de Mahdi Safari, vice-ministre de la diplomatie économique du ministère des Affaires étrangères, Peyman Park, vice-ministre de l'Industrie, des Mines et du Commerce et président de l'Organisation pour le développement du commerce, des représentants de l'Organisation des aliments et des médicaments, vice-président pour la science et la technologie et des gestionnaires de 26 organisations et grandes entreprises productrices de médicaments et d'équipements médicaux, les problèmes auxquels sont confrontés les fabricants iraniens de dispositifs médicaux ont été examinés. L'Iran est l'un des pays producteurs de kits génétiques ADN dans le monde. Les kits produits au Centre de recherche en médecine juriste sont de très haute qualité et peuvent rivaliser avec les kits américains et allemands. Et maintenant, la République islamique d'Iran est l'un des producteurs de kits génétiques ADN dans le monde, a déclaré le chef de l'organisation iranienne de médecine juriste. Abbas Masjedi, lors d'une réunion avec Surena Satori, vice-président iranien pour la science et la technologie, a présenté un aperçu des fonctions de l'Organisation iranienne de médecine juriste et de ses performances dans les secteurs spécialisés de l'éducation et de la recherche et a souligné les réalisations du Centre iranien de recherche en médecine juriste. L'actualité régionale avec la Syrie, une nouvelle agression aérienne d'Israël contre la Syrie, fait plusieurs morts. Les médias syriens font état de 2 morts parmi les civils suite aux frappes aériennes visant une province centrale au petit matin. Plusieurs personnes ont également été blessées. Les défenses aériennes syriennes ont intercepté l'attaque au-dessus de la ville occidentale de Homs. Israël frappe fréquemment des cibles en Syrie. La semaine dernière, il a lancé une frappe de missile contre la capitale Damas. Le gouvernement syrien accuse Tel Aviv de soutenir les groupes terroristes qui opèrent sur son sol. L'agression militaire de l'Arabie saoudite contre le Yémen voisin se poursuit. Les médias yéménites rapportent que des avions de guerre de la coalition d'agression saoudienne ont bombardé 2 quartiers de la capitale Sanaa il y a quelques heures. Les raids aériens ont fait 2 morts parmi les civils et 2 autres blessés. Riyad a également mené mardi des frappes aériennes et d'artillerie sur plusieurs provinces yéménites, faisant de nombreuses victimes civiles. Le régime saoudien a affirmé avoir bombardé un site de lancement de missiles balistiques à Sanaa, mais des sources yéménites ont déclaré qu'il avait ciblé des zones résidentielles. Riyad et ses alliés ont lancé la guerre contre le Yémen en 2015 pour y rétablir un régime ami. Des dizaines de milliers de Yéménites ont été tués et des millions d'autres déplacés dans ce que l'ONU appelle la pire crise humanitaire au monde. Des gens sont descendus dans la rue en Turquie pour exiger la démission du président Recep Tayyip Erdogan. La plus grande ville de Turquie, Istanbul et la capitale Ankara ont été le théâtre de différentes manifestations contre le président Erdogan. Les manifestants sont en colère contre la crise monétaire actuelle du pays. La livre turque chute à son plus bas historique et s'est effondrée de 15% par rapport au dollar américain. La monnaie a perdu 45% de sa valeur cette année. Les détracteurs attribuent la crise à la politique étrangère d'Erdogan et à son insistance sur les taux d'intérêt bas. Le président estime cependant que les problèmes économiques actuels sont provoqués et alimentés depuis l'étranger. Fin de ce journal. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Merci d'être avec nous. Levée partielle des sanctions contre l'arrêt de l'enrichissement à 60%. La proposition officieuse de l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Iran sur la conclusion d'un accord temporaire avec Téhéran ressemble à un piège diplomatique. Robert Mallet, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, a proposé lors d'une rencontre avec son homologue israélien la signature d'un accord d'une durée limitée avec l'Iran en vue de gagner un peu de temps, a-t-on appris du site web américain Axios. Axios précise que Washington pourrait proposer à l'Iran le déblocage d'une partie de ses fonds en échange du gel de l'enrichissement d'uranium à 60%. Il est à rappeler que c'était les Américains qui se sont retirés unilatéralement de l'accord nucléaire sans que ce grand sens d'irresponsabilité leur coûte vraiment cher. Face au laxisme de la partie occidentale vis-à-vis de ses engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire, l'Iran, le seul qui n'avait pas manqué à ses responsabilités, s'est finalement décidé à développer ses capacités nucléaires. Le développement de l'industrie nucléaire et l'enrichissement à 60% de l'uranium ont fait comprendre aux Américains que le savoir-faire nucléaire de l'Iran pouvait rapidement être récupéré et qu'il ne se laissait pas anéantir par les promesses de monts et merveilles. La croissance des capacités nucléaires de l'Iran a poussé l'Occident à choisir le dialogue pour discuter de la levée des sanctions et de la restriction des activités nucléaires iraniennes. En effet, les États-Unis entendent revenir à la table du dialogue avec les Iraniens sans subir les conséquences de leurs actes irresponsables. Pire encore, les Américains subordonnent le respect de leurs engagements antérieurs aux résultats des prochaines négociations. Quant à l'Iran, il a déjà rempli sa part de contrat sans recevoir rien en échange. Il est donc normal que Téhéran ne puisse plus facilement faire confiance à ce que disent les pays occidentaux. L'initiative portant sur la signature d'un accord temporaire avec l'Iran n'est pas une nouveauté, car le gouvernement de Hassan Rouhani l'a déjà éprouvé une fois. Là, l'Iran n'a rien gagné qu'une pause sans intérêt de ses activités nucléaires.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. L'actualité reste toujours largement dominée par les évolutions au Yémen où les forces yéménites et le comité populaire du Yémen, Ansar Allah, se sont emparés du port stratégique de Hodeida dans l'ouest du pays après la fuite des mercenaires soutenus et financés par les Émirats arabes unis. En effet, les mercenaires émiratis se sont brusquement retirés de ce port stratégique et désormais Ansar Allah et les forces alliées contrôlent totalement non seulement ce port mais aussi la route reliant en effet l'ouest du pays à la capitale Sanaa. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons analyser l'importance de ce rebondissement sur le terrain au Yémen et ses répercussions géostratégiques, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur le plan politique. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Décidément, c'est la saison des surprises émiraties au Moyen-Orient. Alors même qu'on parle toujours de la visite éclair du ministre des Affaires étrangères émirati, Al Nahyan, à Damas, où il a serré dans ses bras le président Assad, contre qui les Émirats de MBZ se sont battus aux côtés des Américains, des Israéliens, des Saoudiens, des Turcs et des Qataris, 10 ans durant, embrassade qui a même poussé certains analystes à y voir un piège fait de pétrodollars tendu à Assad, où il risque d'y tomber sans trop le comprendre, quitte à blesser ses alliés russes et de la résistance. Ben Zayed vient encore de prendre de court amis et ennemis en retirant de façon parfaitement éclair ses mercenaires du nord du port stratégique yéménite de Mocha à Hudaïda, et ce, au profit d'Ansar Allah, qui, depuis vendredi soir, s'en est emparé en un quart de tour, prêt à imposer totalement son contrôle sur le port de Hudaïda. Ce qui veut dire que d'ici quelques heures, la résistance yéménite aura pris la côte ouest au moment où la prise de Marib n'est qu'une question d'heures ou de jours. Les sources arabes parlent d'un stratagème et certains analystes yéménites dénoncent un coup de MBZ destiné à mettre sous pression ses propres mercenaires pour qu'ils rallient les combats à Marib et ralentissent la progression d'Ansar Allah. Ray Alium écrit « C'est le choc et la confusion ». Une déclaration conjointe. Des mercenaires déclarent qu'il n'y avait plus aucune raison de maintenir des positions autour de la ville de Hudaïda, dans l'ouest du Yémen, soit cette zone stratégique qui relie directement le port à la mer Rouge. Ce retrait des forces émiraties reste d'autant plus ambigu qu'aucune explication officielle n'a été fournie. Mais il est probable que leur retrait s'inscrive dans le district objectif de faire pression sur le contingent émirati à Taiz pour que ce dernier quitte ses positions et parte à Marib combattre Ansar Allah. Marib est chaque jour un peu plus proche de la libération. Riche en gaz, elle est le dernier bastion de Riyad au centre du Yémen. Le jeu est presque terminé et Ansar Allah s'apprête à se diriger une fois celle-ci libérée vers Chabwa, puis Hadramout. Dès lors, il est compréhensible qu'on quitte Hudaïda pour empêcher l'effondrement de Marib. Mais il y a une chose qui cloche. Pourquoi mettre cet accord en œuvre justement maintenant, à un moment où les batailles s'intensifient et les deux parties sont engagées dans un conflit décisif à Marib? Y a-t-il eu un deal en coulisses entre Émirats, piliers de l'axe atlantiste d'une part, et la résistance yéménite de l'autre? Une capitalisation certainement, car ce retrait ressemble à peu près à ce qui se déroule en ce moment même et de façon parfaitement surprenante en Syrie, où Ben Zayed débarque avec ses pétrodollars pour ériger une centrale électrique avant de se rendre en Jordanie et annoncer à Abdellah II être prêt à aider à la mise en œuvre du pipeline arabe. Cela s'appelle une capitulation qui ne dit pas son nom, comme l'a précisé le secrétaire général du Hezbollah dans son récent discours.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Vaucluse avec M. Bernard Cornu, analyste politique, et depuis Paris avec M. Philippe Hugon, reporter de guerre et journaliste. M. Hugon, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous et à votre invité.
Monsieur Hugon, alors, près de 3 jours après la visite du ministre émirati des Affaires étrangères à Damas, les mercenaires, les miliciens liés aux Émirats, financés plutôt par ce pays, se sont brusquement retirés du port stratégique de Hodeïda. Dans quel contexte s'inscrit ce retrait? À quoi ressemble ce concours de coïncidences? Et que pensez-vous, M. Hugon, du timing et des objectifs de ce retrait soudain?
Alors, moi, je dirais que si on connaît un petit peu la géographie et la configuration du terrain au Yémen, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de similitudes avec l'Afghanistan. Alors, il faut bien savoir que tous ces mercenaires qui ont été envoyés se retrouvent aujourd'hui dans une position extrêmement difficile face à une résistance yéménite qui est quand même très forte aujourd'hui. Donc, je dirais que ça me fait beaucoup penser au bourbier afghan, parce qu'il est absolument très, très difficile pour tous ces mercenaires, en dehors de détenir un port ou une ville à droite à gauche, hein, qui est certaines petites régions faciles d'accès. Il faut bien savoir que le Yémen a une configuration générale très montagneuse, très difficile à tenir. Et je pense que si aujourd'hui on décide de se retirer, il y a bien sûr un motif politique, c'est une évidence, mais il y a également un motif militaire. C'est une région qui serait extrêmement difficile à tenir de la part des mercenaires émiratis, mais également avec le soutien de l'Arabie Saoudite. Hein. Financièrement, il faut bien savoir que l'Arabie Saoudite a beaucoup financé des points de déstabilisation comme ça dans le Golfe. Et je pense que c'est une situation qui est inextricable aujourd'hui. Alors, en dehors du problème purement politique qu'on abordera dans le débat après, mais il faut bien savoir que c'est une région extrêmement difficile à tenir, avec un certain nombre de courants différents qui ont des ambitions différentes. Et à l'heure d'aujourd'hui, la meilleure solution pour ces mercenaires, s'ils ne veulent pas être détruits par la résistance yéménite, c'est de se retirer. Alors je vous dis bien, il y a le volet politique après, on pourra l'aborder un peu plus tard dans le débat si vous voulez, mais c'est un problème purement physique aujourd'hui de la part de ces mercenaires de pouvoir tenir un certain nombre de positions stratégiques. Hein. Alors tenir un port ou tenir une capitale ou tenir une petite région, c'est possible. Ça, en théorie, on peut tout faire, mais sur le terrain, ça devient extrêmement difficile quand on arrive à une configuration générale de terrain qui est extrêmement montagneuse, où on ne peut pas se déplacer facilement. Donc c'est un bourbier un petit peu comme les Américains l'ont connu au Vietnam ou certains terroristes en Syrie qui se sont retirés par obligation parce qu'ils n'avaient plus du tout le choix de pouvoir choisir une autre option.
Merci infiniment pour ces précisions, Monsieur Hugon. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre Bernard Cornu, analyste politique. Monsieur Cornu, bonjour. Merci Bonjour. Infiniment d'être en ligne avec nous, Monsieur Cornu.
Bonjour.
Monsieur Cornu, alors pour Monsieur Hugon, là, dans cette décision imprévue, dans ce retrait soudain des forces soutenues par les Émirats arabes unis, il y a à la fois des motifs politiques et militaires. Pour certains, il s'agit là d'une capitulation sur le terrain de la part des mercenaires liés aux Émirats. Pour certains autres, il faudrait peut-être voir un stratagème de la part du prince héritier émirati destiné à faire pression sur ces mercenaires pour qu'ils quittent le port stratégique de Hodeïda et rejoignent en effet les combats à Ma'arib dans l'objectif de ralentir l'avancée des forces yéménites. Quel est votre commentaire avant de revenir justement à l'aspect au volet politique de cette décision sur le terrain? Comment vous voyez les choses, Monsieur Cornu?
Les deux endroits, Hodeïda, le port sur la côte, et Ma'arib, qui est dans une plaine intérieure ouvrant vers Chavois la Hadramaout et ensuite Aden. C'est ces deux endroits stratégiques pour des raisons différentes. D'une part le port et d'autre part la région où a été trouvé le pétrole il y a plus de 20 ans à Chabois et aussi du gaz dans la région de Mareb, donc qui est stratégique et qui est le couloir qui permet d'accéder à Aden. Donc je pense effectivement il y a eu des combats très forts à Mareb ces jours-ci, mais il y a eu aussi cette visite ordonnée par MBZ de son ministre des Affaires étrangères auprès du président Assad en Syrie, qui, à mon avis, n'est pas un piège, mais une volonté de faire cesser la participation des régimes arabes du Golfe au financement de cette guerre en Syrie, qui c'est eux qui financent depuis le début des mercenaires et des armes avec des États-Unis, de la France et de l'Angleterre, et la complicité même, puisqu'il y a eu des coordinations. Donc je pense que le Golfe commence à comprendre que cette guerre en Syrie est vaine. Il y aura prochainement sans doute une réunion de la Ligue arabe pour décider, discuter et ensuite, espérons-le, décider du retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Voilà, donc je pense, j'espère que c'est une démarche sincère de la part des Émirats arabes unis et qui devrait être suivie normalement d'une réaction assez semblable de Qatar qui pour l'instant résiste un peu et de l'Arabie saoudite qui, si elle le fait, le fera en dernier. Je pense aussi à l'attitude des Saoudiens sur la guerre au Yémen qui a été violemment critiquée par une autorité, une personnalité libanaise devenue ministre, ce qui a fait la crise dont on a parlé récemment. Mais je pense que ceci souligne la lassitude de l'Arabie après celle des Émirats sur cette guerre au Yémen. La perspective de du déclin de la production de pétrole souhaité par les Occidentaux au nom de la lutte pour le climat est aussi un signe que les pays arabes pétroliers devraient se préparer à une hausse des taxations en Occident via la taxe carbone ou d'autres moyens et donc à la décroissance de la demande mondiale et donc sans doute aussi à une décroissance des prix face à une offre qui serait trop abondante. Et donc ces pays, l'Arabie saoudite, les Émirats, doivent se préparer à un réel changement de leur stratégie de développement économique. Compter moins sur les exportations de pétrole et de gaz et compter plus sur leur propre force, le développement des formations, le développement de la transformation de biens industriels. Voilà. Donc je pense que ce mouvement est sincère, initié par les Émirats, qui ont sans doute une vision du long terme un peu plus aiguë, un peu plus affinée que celle de l'Arabie saoudite, qui a seulement pris des consultants pour faire sa vision 2030 et ne n'est pas encore engagé réellement dans une transformation profonde de l'économie et de la société, malgré les dires, malgré les proclamations qui sont surtout de la communication plus que des réalités. Et de toute façon, ces changements en Arabie sont difficiles à assumer.
Merci infiniment, M. Cornu, pour ces précisions. Restez avec nous. M. Hugon, alors sur le terrain, justement, vous avez parlé de ce motif militaire. Désormais, alors, la libération de cette province stratégique de Ma'arib semble imminente et Ansarallah et les forces alliées contrôlent en ce qui concerne le port stratégique de Hodeida, contrôlent ce port et la route qui relie en effet ce port stratégique, cette zone stratégique à la capitale Sanaa. Quelles seront les répercussions, M. Hugon, géostratégiques et géopolitiques alors de cette victoire non seulement sur le plan national au Yémen, mais aussi sur le plan régional.
Alors, il est clair que de toute façon, les mercenaires qui ont été envoyés au Yémen ont clairement perdu la guerre, si je puis dire, enfin, c'est cette guerre civile, hein, pour essayer de conquérir quelques territoires comme ça. Moi, je pense qu'il y a, dans les années qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, on va assister à un grand bouleversement de la géopolitique dans toute la région, Yémen, Émirats, Arabie Saoudite. Il faut bien savoir que ces pays ont eu un très fort développement économique depuis une cinquantaine d'années maintenant, 50-60 ans, je dirais, par une demande croissante de produits pétroliers, hein, et de gaz, bien évidemment. Alors, on s'aperçoit aujourd'hui qu'en Europe et aux États-Unis, on développe de plus en plus des énergies alternatives. Donc, on va avoir une surabondance de ces produits pétroliers, ce qui va bien sûr entraîner certainement une chute de leurs revenus et une chute de leur PIB, hein, de produits intérieurs bruts. Donc, ça pose un énorme problème économique. Il faut bien savoir que ces pays n'existent que par le pétrole. Ils n'ont pas de développement interne significatif qui leur permettrait de pouvoir avoir une indépendance comme la plupart des pays qui peuvent être autour, comme l'Iran, comme le Liban, comme la Syrie. Ce ne sont pas des pays qui ont construit et qui se sont servis de cette manne financière pour construire une industrie et pérenniser une situation économique, je dirais, plus classique. Donc, il est vrai que dans les 10 ans qui viennent, on va assister à un effondrement de toutes ces monarchies qui ont fait, je dois dire, un petit peu n'importe quoi avec cette manne pétrolière et n'ont pas pensé au long terme. Ils ont travaillé sur le court et le moyen terme. On sait très bien qu'en Arabie Saoudite, quel industriel européen viendrait monter une usine en pleine Arabie Saoudite? C'est quelque chose qui n'existe pas et qui n'existera pas, en dehors de petites industries locales sur l'eau, sur des jus de fruits ou des choses comme ça qui peuvent être épisodiquement, je dirais, construites dans ces monarchies. Donc ce sont toutes des monarchies avec des économies extrêmement fragiles. Donc on va assister à cet effondrement. Je pense qu'on n'en est pas très loin d'ailleurs, puisque je pense que dans les 5-6 ans qui viennent, on va avoir un effondrement économique au niveau mondial comme on a très peu connu dans l'histoire. Et ces pays-là vont être extrêmement touchés. Sans compter que, bien sûr, en ce qui concerne le Yémen, puisqu'on parle du Yémen aujourd'hui, on a découvert de grandes nappes de pétrole et de gaz, on s'aperçoit qu'on aimerait bien, enfin, certaines monarchies autour aimeraient bien pouvoir mettre la main sur ce volet économique de leur économie. Alors, il est clair que la résistance s'est organisée et aujourd'hui pose beaucoup de problèmes aux forces extérieures venues déstabiliser ce pays. Il faut bien savoir que dans ce genre de monarchie, même si il est extrêmement difficile de renverser un gouvernement, hein, on l'a vu dans différents points de la région, hein, dans différents pays de la région, malgré tout, il n'en reste pas moins vrai que quand on envoie des mercenaires quelque part, on applique, je dirais, le procédé du pouvoir de nuisance qui peut réduire à néant des efforts économiques. Et c'est ceci qui est extrêmement grave aujourd'hui dans la région, c'est que ces monarchies-là n'existent que par le pétrole et vont bientôt s'effondrer car ils n'auront pas pensé au long terme et ce qui va créer une grande zone de déstabilisation de la région.
Merci encore, M. Hugon. Une toute dernière question à M. Cornu. M. Cornu, alors il y a eu récemment un exercice quadripartite à Tel Aviv, Washington, Manama et Abu Dhabi en mer Rouge. Alors, dans quelle mesure les évolutions au Yémen, la libération prochaine de Ma'arib et bien entendu le contrôle du port stratégique d'Hodeïda par Ansar Allah pourraient changer en effet le rapport des forces et avoir un impact considérable sur les équations géostratégiques au niveau régional.
Disons, je pense que s'il y a des négociations discrètes pour faire cesser la guerre au Yémen, il y a aussi des négociations encore plus discrètes pour faire cesser la guerre entretenue en Syrie. Le pape, qui a un service diplomatique qui est très aiguisé, très bien informé, a envoyé récemment une autre personnalité du Vatican en Syrie. Donc ceci, à mon avis, est signe qu'il y a des négociations autour de ces deux conflits. Et c'est d'ailleurs cohérent avec la nécessité globale de réduire les productions d'énergie fossile. Il faut donc aussi calmer les guerres, arrêter les dépenses inutiles, destructrices, liées à ces guerres, que ce soit au Yémen ou en Syrie. Donc je pense qu'il y a des négociations. C'est difficile parce que les pays occidentaux ne sont pas prêts à reconnaître leurs erreurs initiales d'avoir voulu pousser la Syrie à l'autodestruction en entretenant des mercenaires et en les finançant, comme cela est maintenant bien connu, mais seulement des spécialistes et non pas du grand public. Je pense qu'il y a une nécessité d'arriver à la paix dans cette région, notamment aussi pour sauver le Liban.
Et en ce qui concerne le Yémen, monsieur...
En cours et politique.
Et en ce qui concerne le Yémen, monsieur Cornu, vous voulez dire qu'on pourrait s'attendre prochainement à une issue politique à la crise yéménite ?
Oui, à une issue politique avec une négociation entre les équipes de Ansar Allah et les différentes autres parties encore proches des milieux de l'Arabie Saoudite et des Émirats. Espérons-le en tout cas.
On va terminer cette émission avec M. Hugon. M. Hugon, et pour vous, l'issue du Yémen semble envisageable ?
Je pense qu'elle est envisageable, oui, parce que tout le monde a intérêt à arrêter un petit peu les, si je puis dire, puisque vous savez que ces opérations coûtent énormément d'argent et qu'aujourd'hui, la situation économique, même dans les monarchies du Golfe, n'est pas au beau fixe également. Donc je pense qu'il y a une diplomatie souterraine qui est très importante actuellement avec le Yémen. Et on va essayer, bien sûr, de trouver une issue politique qui soit acceptable par toutes les parties. Il faut savoir que ce conflit a quand même fait beaucoup, beaucoup de morts déjà, a coûté beaucoup d'argent et pour un résultat quasiment nul. Donc, je pense que la seule solution politique aujourd'hui acceptable, c'est de trouver un accord entre toutes les parties, un accord qui soit acceptable par toutes ces parties de façon à arrêter cette déstabilisation. Moi, ce qui me gêne le plus dans toutes ces opérations créées par des mercenaires, c'est ce pouvoir de nuisance qu'ils ont sur la situation économique, mais également sur la situation humaine, puisqu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens blessés, il y a des enfants qui crèvent de faim. Donc je pense que la situation humanitaire est à prendre en compte. Malheureusement, on en parle rarement, ce qui est bien dommage, puisque bien sûr, ce sont des situations très très difficiles à vivre. Et ce que je regrette, c'est justement ce pouvoir de nuisance qu'utilisent notamment les Émiratis et les Saoudiens afin de déstabiliser un certain nombre de pays. Et ça, je suis vraiment catastrophé de voir que l'ONU, que l'Union européenne, que les États-Unis puissent encore accepter ce genre de situation.
Philippe Hugon, journaliste, reporter de guerre, Bernard Cornu, analyste politique, je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
super-impérialisme, la stratégie économique de l'Empire américain. L'économiste Michael Hudson, considéré comme l'un des plus grands économistes de l'époque, a publié une troisième édition de son livre « Super-impérialisme, la stratégie économique de l'Empire américain », qui met à jour son analyse pour le XXIe siècle, discutant de la nouvelle guerre froide contre la Chine et la Russie, et de la transition en cours d'un système financiarisé dominé par le dollar américain à une économie multipolaire dédollarisée. La première édition de Super-impérialisme a été publiée après que Richard Nixon ait retiré le dollar de l'or au début des années 1970. Et puis la deuxième édition a été publiée après le début de la guerre contre le terrorisme, qui représente une sorte de nouvelle phase de l'impérialisme. Et puis finalement, la troisième édition en ce moment, où on assiste à la nouvelle guerre froide, dans laquelle Hudson parle de l'évolution vers une économie multipolaire dédollarisée. Voici des explications de Michael Hudson à propos de cette dernière édition. La première édition de Super-impérialisme a été publiée en septembre 1972, 13 mois après que le président Nixon ait retiré le dollar de l'or. Et tout le monde s'inquiétait. Au sans or, comment allons-nous contrôler le monde? Comment allons-nous contrôler l'Europe? Et tout le monde s'inquiétait. Au sans or, comment allons-nous contrôler le monde? Comment allons-nous contrôler l'Europe? Parce que tout le déficit de la balance des paiements dans les années 50-60 et au début des années 70 provenait des dépenses militaires. Et certains ont pensé que si vous perdiez votre stock d'or, qui était la source du pouvoir mondial à cause des dépenses militaires, de quelle manière serait-il possible de contrôler le monde? Eh bien, il y avait un nouveau moyen de contrôler le monde et que l'or était en fait verrouillé sous le contrôle de l'Amérique, parce que maintenant qu'elle avait forcé d'autres banques centrales à ne pas acheter d'or, qu'allait-elle faire? Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était recycler les excédents en dollars sous forme d'obligations du Trésor américain. Parce que c'est ce que les banques centrales ont fait, acheter des bons du Trésor. Tout ce déficit provenant des dépenses militaires à l'étranger va être recyclé aux États-Unis par les banques centrales qui doivent recycler leur argent en dollars et cela va fixer le prix de leur exportation hors du marché et cela rendra leurs économies fondamentalement déséquilibrées. Donc, pour maintenir la valeur à un bas niveau, ils achètent des titres en dollars américains et l'Amérique ne leur permettrait pas d'acheter quoi que ce soit d'important, seulement des obligations du Trésor américain. L'ironie est que plus le déficit de la balance des paiements devenait important, plus l'argent était recyclé pour financer le déficit budgétaire américain qui était également largement militaire. Hudson explique qu'il y a 10 ou 15 ans, le gouvernement chinois lui a demandé de faire une nouvelle version pour la réactualiser comme une clé concernant la façon dont ils peuvent dédollariser. Et de leur point de vue, ils veulent voir comment ils peuvent se découpler non seulement des États-Unis, mais de l'Occident. Ils ne considèrent pas qu'il y ait une concurrence entre la Chine et les États-Unis. Certainement pas une concurrence industrielle. Les États-Unis ont décidé qu'ils allaient se désindustrialiser parce que leurs entreprises pouvaient essentiellement embaucher plus de main-d'œuvre à l'étranger qu'elles ne pouvaient en embaucher aux États-Unis. Les États-Unis étaient devenus tellement axés sur la dette et tellement privatisés. Depuis la révolution Reagan, l'économie américaine était thatcherisée, ce qui en faisait une économie à coût élevé. Le coût du logement a beaucoup augmenté. Le coût de l'assurance médicale a beaucoup augmenté. Le fardeau de la dette a beaucoup augmenté. Et l'Amérique, de ce fait, s'excluait du marché. La Chine et la Russie considèrent l'Amérique comme une étude de cas. Et leur objectif est comment éviter ici d'avoir la même dynamique que celle qui s'est produite aux États-Unis. Cela n'a rien à voir avec le capitalisme contre le socialisme ou d'autres ismes. Cela a à voir avec la dynamique de base de la dette. Et la Chine se rend compte que, d'accord, nous allons rendre notre économie productive, comme les États-Unis et l'Allemagne l'ont fait au 19e siècle. C'est une économie mixte. Et en tant qu'économie mixte, nous allons demander au gouvernement de fournir les services publics de base à un tarif subventionné au lieu de les laisser privatiser afin que nous puissions avoir une économie à bas coût. L'utilité publique la plus importante pour la Chine, comme pour la Russie, est aussi de garder la création monétaire, la banque et le crédit dans le domaine public. Il peut décider ce qu'il faut faire pour protéger les acheteurs de maisons qui mettent de l'argent dans l'achat d'appartements bas de gamme. Il peut taxer le loyer foncier pour éviter que le logement ne soit essentiellement financiarisé. La Chine tente donc de définanciariser son immobilier, de définanciariser son industrie. Ce n'est pas en rivalité avec les États-Unis. C'est un rejet de toute la structure néolibérale que les États-Unis ont mise en place. Ce dont Hudson parle dans son super-impérialisme, c'est de la façon dont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont été créés comme un moyen d'imposer une structure néolibérale et anti-gouvernementale au monde pour empêcher d'autres pays de réglementer leur industrie ou de réglementer leur agriculture. La fonction de la Banque mondiale était essentiellement de rendre les pays du tiers-monde, les pays du Sud, dépendants des États-Unis pour leur approvisionnement alimentaire en finançant uniquement l'agriculture d'exportation, les cultures de plantation d'exportation et non la culture qui produit leur propre nourriture. La fonction du FMI était d'utiliser l'effet de levier de la dette pour forcer d'autres pays à imposer l'austérité à leur population et sur le fond de leur faire savoir que nous contrôlerons quel gouvernement vous avez, parce que si votre gouvernement fait quelque chose que les responsables américains n'aiment pas, nous allons simplement piller votre monnaie. La force de l'austérité sera sur vous, et vous ne pourrez rien y faire. Donc, essentiellement les États-Unis, ce qu'ils appellent les organisations internationales, comme s'il s'agissait d'une organisation mondiale, sont en fait un outil très nationaliste des États-Unis pour fausser l'agriculture et l'industrie et le développement commercial d'autres pays, pour servir les intérêts américains et en particulier les intérêts financiers américains. Et le mode de contrôle, évidemment, n'est plus militaire, il est financier. Et le super-impérialisme parle de la façon dont l'Amérique est différente du colonialisme européen en contrôlant le monde financièrement et secrètement, politiquement, pas par la force militaire. Et pourtant, tout cela nécessite une énorme subvention de la part des pays étrangers qui se découplent maintenant du dollar et ne donnent plus à l'Amérique le pouvoir qu'elle a eu depuis 1971, lorsqu'elle a obtenu que ce que tous les gouvernements pouvaient faire avec leurs excédents de balance des paiements soit d'acheter des obligations du Trésor. Maintenant, ils achètent de l'or, ils achètent les devises autres. Ils font tout sauf détenir des dollars. Et c'est le grand changement dans le monde. L'un des points que Hudson fait valoir tout au long de son livre est que l'armée américaine occupe de nombreuses parties du monde. Fondamentalement, l'Amérique veut avoir la capacité de dire qu'ils sont la seule puissance et qu'ils peuvent détruire l'économie des autres. Si vous ne vous obéissez pas, nous vous le disons, nous pouvons vous faire ressembler à la Libye, nous pouvons vous faire ressembler à l'Irak et nous pouvons vous déchirer. Nous pouvons vous faire aimer l'Afghanistan. Nous seuls détenons ce pouvoir. Nous n'avons pas de pouvoir économique, nous n'avons pas de productivité, nous n'avons pas de pouvoir concurrentiel, mais nous pouvons vous détruire et nous sommes prêts à vous détruire parce que si vous bougez, on vous détruira. Et nous ne vous sentirons pas en sécurité à moins d'avoir le pouvoir de vous détruire et de vous empêcher d'avoir le pouvoir de vous défendre et de vous protéger. Les États-Unis ne peuvent le faire que s'ils peuvent contrôler le système financier qui recycle toutes ses dépenses militaires à l'étranger aux États-Unis. Sinon, l'Amérique devrait soit imprimer l'argent, soit taxer ses sociétés et ses gens, ce qui le rendrait encore plus coûteux productivement. Ainsi, l'Amérique s'est essentiellement transformée dans le sillage de ses dépenses militaires. Elle a perdu son avantage industriel. Elle a perdu sa compétitivité internationale. Et la seule chose qui lui reste, c'est le pouvoir de détruire. Si d'autres pays n'abandonnent pas essentiellement leurs économies au contrôle des États-Unis, prétendant être objectifs et non nationalistes en disant nous ne vous contrôlons pas. La Banque mondiale vous contrôle, le FMI vous contrôle, les organisations internationales vous contrôlent. Mais c'est deux poids, deux mesures. Super-impérialiste de Michael Hudson montre comment ce double standard a perverti ces organisations apparemment internationales en armes nationalistes, fondamentalement du département de la défense et du département d'État des États-Unis.